Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence Lourdes Pyrénées, aux auditeurs de Radio La Pourdie. Bonjour et meilleurs vœux, Monseigneur Hayé.
Bonjour, et tous mes vœux aussi.
Bonjour, Violaine Ricourt-Dumas, et bonne année.
Merci, bonjour
et,
à tous.
Et bonne année à tous ceux qui nous écoutent sur Radio La Pourdie et sur Radio Présence. Trois parties aujourd'hui pour cette émission. Nous parlerons bien sûr du décès du pape émérite Benoît XVI. Nous reviendrons sur le message de Noël qui est toujours d'actualité, encore en cette mi-janvier. Et puis nous parlerons des événements de la vie diocésaine. Alors, Monseigneur Hayé, ça a été peut-être pas une surprise, mais en tout cas un événement important que le décès de Benoît XVI qui a été pape pendant 8 ans.
Oui, c'est toujours une surprise parce que on ne s'y attendait pas forcément à ce moment-là, même si le pape François nous avait préparé à l'audience qui a immédiatement précédé du mercredi en nous disant qu'il fallait prier pour le pape émérite qui était gravement malade. Mais de fait, il est quand même mort, il avait 97 ans, non, 95 ans, pardon. Et donc c'est un âge quand même respectable. J'ai participé aux obsèques, en effet. Pour moi, c'était important parce que c'est le pape qui m'a nommé évêque il y a 14 ans et que j'avais un petit lien, c'est vrai, d'affinité spirituelle avec lui, car on n'a pas découvert Benoît XVI au moment de son élection, mais comme vous le savez, il était à la barre déjà depuis 24 ans comme préfet de la Congrégation pour la foi et à ce titre, à cause aussi d'une amitié intellectuelle et spirituelle très forte avec Jean-Paul II, il avait été donc pendant tout le temps du pontificat de Jean-Paul II son plus proche collaborateur. Les obsèques, je les ai vécues dans une grande ferveur, comme tous ceux qui y ont participé. C'est sans doute ça qui m'a le plus frappé, un grand moment ecclésial de ferveur populaire. Il est manifeste que la mort de Benoît XVI a révélé, en tout cas les médias y ont été attentifs, une sorte de dévotion populaire autour de sa personnalité, surtout depuis peut-être l'acte courageux de sa renonciation en 2013, et puis ce temps qu'il a passé dans l'enfouissement de la prière, là, dans ce couvent, au cœur du Vatican pendant près de 10 années. Et les obsèques étaient au fond à son image. Il est mort d'ailleurs très humblement un 31 décembre, presque pour passer inaperçu, après la grande figure du football de qu'est le roi Pelé, pour ne pas faire de vagues. De fait, ses obsèques un 5 janvier n'étaient pas forcément une date très pratique pour rameuter beaucoup de monde, mais il y avait quand même 50 000 personnes, 200 000 personnes qui ont défilé de manière assez inattendue quand même devant son catafalque exposé à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Pierre. Aujourd'hui, il y a des files d'attente pour se recueillir sur son tombeau. Donc tout ça est très silencieux et très intérieur. J'ai senti une grande ferveur, une grande sobriété. Le pape même, et je pense que certains, peut-être à juste titre, étaient un peu déçus qu'il ne parle pas beaucoup de son prédécesseur, mais au fond, ça lui ressemblait. Hein, l'homme humble qu'il était devait être tout à fait content au ciel, s'il y est comme nous l'espérons, eh bien, qu'on ne parle peu de lui.
Alors est-ce que vous pensez que, comme certains, que le Vatican et le pape ont fait le service minimum à l'occasion de ces obsèques?
Je ne sais pas ce que ça veut dire, service minimum. C'est vrai quand même que c'était un pape émérite, donc peut-être qu'il y a des raisons qui m'échappent. Il y avait quand même eu un jour de deuil proclamé en Italie, ce jour-là, en Allemagne aussi, en Bavière en particulier, je crois que c'était 3 jours, en Espagne, l'État du Vatican n'a pas proclamé le jour de deuil. Et les congrégations avaient mission de rester ouvertes. Et donc, on devait continuer à travailler, même s'il est évident qu'on avait la permission de participer au... Alors, donc, c'est vrai que c'est étonnant. Mais moi, je ne sais pas les raisons pratiques. Hein. Ce que je sais, c'est que la célébration était belle, grave, très fervente. On sentait beaucoup de ferveur populaire. Près de 6000 prêtres, dit-on, ce qui est quand même assez exceptionnel, et essentiellement des jeunes prêtres. Donc c'est toujours intéressant de se dire, y a une génération voilà, qui était présente, une génération Benoît XVI, comme il y a une génération Jean-Paul II, et comme sans doute il y aura une génération François. Voilà.
Vous-même, Monseigneur Hayé, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, Benoît XVI, lors des visites ad limina ou lors d'autres occasions. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'homme, même si on le connaît un petit peu, mais vous qui l'avez rencontré personnellement?
Alors, j'avais même rencontré quand il était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Et ce qui me frappe le plus, si je puis dire rapidement, d'abord c'est son humilité. Un homme d'une grande douceur, une grande humilité, qui était d'abord à l'écoute de son interlocuteur, qui n'avait pas d'abord un message à transmettre, et qui répondait aux questions. Voilà. Alors avec une intelligence lumineuse, c'était toujours extrêmement clair, il parlait un français impeccable, j'allais dire bien meilleur que le mien, et il construisait son discours de manière tout à fait improvisée, c'était toujours très éclairant, et puis voilà, éclairant, très clair, hein. Il a mis beaucoup de clarté dans l'enseignement de l'Église, avec aussi une originalité qui était la sienne, parce que c'était un homme pas seulement... alors je ne sais pas si on doit dire le mot brillant, c'était pas un grand communicant.
Intellectuel, en tout cas.
Brillant intellectuellement, mais plus éclairant que brillant, vous voyez.
Mais il a pu être incompris quand même parfois, il y a eu des gaffes entre guillemets.
Je ne sais pas si c'est des gaffes, je pense qu'il n'a pas toujours été bien entouré par un service de communication suffisamment aguerri et réactif. Lui intellectuellement il disait les choses avec. Si on relit les discours après on voit qu'il n'y a pas de problème. Par exemple le discours de Ratisbonne c'était une leçon universitaire où il cite... Il le dit de manière très claire, mais tout de suite, il y a quelqu'un qui sans doute en voulait au pape, qui s'est débrouillé pour sortir la phrase de son contexte et qui a enflammé, embrasé le monde musulman. Mais c'est certainement pas lui qui l'a embrasé. D'ailleurs, tout de suite, très vite, il a repris des contacts qui ont été encore plus profonds et plus forts qu'avant. Donc je crois qu'il faut... Il avait l'art de dire les choses clairement, et ça pouvait être compris très vite, quoi.
Quand un évêque rencontre le pape, en l'occurrence Benoît XVI, est-ce qu'il vous donne des conseils, par exemple ?
Non. Non. Alors, c'est sûr qu'il avait un message à donner. En visite ad limina, je me rappelle en 2012, c'est la seule que j'ai eue avec lui, c'était quelques mois avant la renonciation à sa charge, dont on ne savait rien, évidemment. Il y avait une rencontre avec toute la délégation que nous étions, une trentaine d'évêques du Grand Ouest de la France, et il avait un discours à nous faire. Mais on sentait que ce discours, il était en réponse aux différents rapports que nous avions fournis quelques mois auparavant au dicastère et donc à ses services, qui avaient dû lui faire des synthèses. Et donc il répondait, tout en nous donnant en effet un message, qui n'était jamais une leçon. Il ne faisait pas de leçon de morale, Benoît.
Mais après, vous vous êtes retrouvé en tête-à-tête avec lui, par exemple ?
Alors, on ne s'est pas trouvé en tête-à-tête, mais on se retrouvait en petits groupes de province. Donc, nous étions 5 évêques avec lui. Chacun devait lui poser une question, mais il ne la connaissait pas par avance, quant à lui. Et il nous répondait avec beaucoup de... Alors, c'était jamais des leçons, peut-être des conseils, des avis, puisqu'on lui demandait. Il nous répondait, mais il répondait à nos questions. Et on avait été très frappés, moi déjà, par certaines congrégations, où on allait dans une congrégation et le préfet avait tout un discours à nous faire, un message, comme si on n'était pas là. Lui, il répondait aux questions. Il n'avait pas d'abord un message à nous donner. C'est un homme très humble, ça c'est vrai. Ouais.
Alors en 8 ans de pontificat, il a produit 3 encycliques, je crois. Quel est l'apport de ces encycliques et puis de tout ce qu'il a pu faire en 8 ans?
Alors j'ai envie de dire que l'apport de Benoît XVI précède son pontificat. Il a travaillé de manière très proche avec Jean-Paul II. Et on peut dire par exemple que son apport, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Même si ça a été promulgué par Jean-Paul II en 92, c'est lui qui en a été l'artisan, puisque Jean-Paul II lui a transmis ce travail, qui était finalement le renouvellement de la catéchèse de l'Église à la lumière de l'enseignement du Concile Vatican II. Donc ça, c'est quand même un premier apport très important pour l'Église. Et puis ensuite, il a travaillé à côté de Jean-Paul II, en particulier à 3 grandes encycliques doctrinales. La première, c'est Veritatis Splendor, sur quelques questions de morale fondamentale. Ensuite, c'est Evangelium Vitae, sur l'évangile de la vie. Et Fides et Ratio, foi et raison, qui a été vraiment l'affaire de sa vie. On sait combien il a été très, très loin dans le dialogue entre la foi et la raison. Et il nous en donne un petit aperçu, d'ailleurs, dans son testament spirituel, qui est assez extraordinaire. Lui, ensuite, il a écrit, on va dire, 3-4 encycliques. Même si la quatrième est signée par son successeur, c'est lui qui lui a fourni le travail. Il avait voulu faire une trilogie sur les vertus théologales. Donc il a commencé par l'amour. Deus caritas est Dieu, amour. Il a pris d'ailleurs les gens, j'allais dire, à contre-pied, parce qu'on attendait que le préfet, pour la Congrégation de la Doctrine de la Foi, dont on avait fait un penseur cardinal, qui est complètement à côté de la plaque quand on le connaît, et même dans sa méthode, sa manière même de recevoir les personnes qui sont un peu hétérodoxes, eh bien, il a commencé par l'amour, la charité. Puis ensuite l'espérance, spe salvi, qui est magnifique parce qu'il renouvelle l'enseignement de l'Église sur l'eschatologie, sur les fins dernières. Il les remet en première ligne, mais d'une manière très originale. Et puis enfin, il a fait une encyclique sociale, Caritas in Veritate, qui a été très remarquée dans le monde économique en particulier, où il a introduit dans l'économie la notion de don et de gratuité. Et enfin, il avait écrit l'encyclique sur la foi, Lumen Fidei, que le pape François s'est approprié et a signé.
Alors, il y a eu aussi cette main tendue aux traditionalistes, aux intégristes. Ça n'a pas marché.
Alors, vis-à-vis des lefévristes, c'était pas nouveau, puisqu'il était chargé par Jean-Paul II pour maintenir le contact. Et je me souviens, comme cardinal préfet de la Congrégation de la Foi, il nous avait répondu à un pèlerinage de prêtres de Toulon, quand j'étais vicaire général, à un prêtre qui disait « Alors, et qu'est-ce que vous faites des schismatiques ?» Il dit « Non, on ne peut pas parler de schisme consommé dans la mesure où il y a toujours une relation de dialogue avec eux. » Il a essayé, de ce côté-là, il n'a pas réussi, mais pour, d'une certaine manière, réconcilier l'ensemble des membres de l'Église, ce qu'on appelle les tradis, hein, avec ceux qui sont davantage conciliaires, même si je pense que les tradis le sont aussi, eh bien, il a essayé de montrer que, du point de vue de la liturgie, la constitution Sacrosanctum Concilium, qui précède évidemment la réforme liturgique, eh bien, pouvait être interprétée dans les deux formes, d'une manière homogène. Tout ça pour réconcilier les catholiques au sein de l'Église. Donc c'est une œuvre de communion qui n'est pas forcément achevée.
Une de ses autres grandes actions, c'est aussi d'avoir essayé de commencer à lutter contre la pédophilie. C'est lui qui a été le précurseur, oui, de toutes ces
affaires. Je crois qu'il y a eu deux grands dossiers délicats au sein de l'Église auxquels il s'est attelé. Le premier, c'est évidemment la crise des abus sexuels dans l'Église. Donc là, il était extrêmement intransigeant. Et puis c'est lui qui a été le premier à écouter vraiment les victimes. Dans tous ses voyages, il allait à la rencontre des victimes. Et il a écrit une lettre magnifique à l'Église d'Irlande, comme vous le savez, hein, pour toujours élever un peu le débat, hein, par rapport à toutes ces questions. Et puis ça a été aussi la question financière au sein du Vatican, auquel il s'est attelé. C'est son successeur qui a repris le dossier. Je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a complètement encore clarifié, mais ça précédait sans doute le pontificat et de Benoît XVI et de François, mais c'est lui aussi qui s'est attelé à cette délicate réforme.
Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est retiré, qu'il a...
Lui dit et maintient, dans toutes les... chaque fois qu'on lui a posé la question, que c'est d'abord pour des raisons de santé, mais sans doute pour affronter des problèmes de gestion au sein de l'Église pour lesquels il ne sentait plus les forces physiques.
Alors cette renonciation du 11 février 2013, à l'époque, ça avait vraiment surpris tout le monde.
C'est surpris tout le monde, stupéfait. Moi, j'avoue que dans un premier temps, j'étais catastrophé. J'avais l'impression de devenir orphelin, puisque le pape, c'est le père. Et puis, on a l'impression qu'il désertait. Je ne crois pas du tout précisément que c'était une désertion. Et puis après, avec un peu de recul, très vite, je me suis dit, ben, quel courage et quelle humilité. Voilà un pape qui signe vraiment l'humilité pour la signature de son pontificat, parce qu'il ne s'accroche pas à son pouvoir. Il est là simplement le serviteur humble et l'instrument d'un autre, qui est le vrai bon pasteur de l'Église. Mais il est prêt à laisser sa charge à un autre, dans la mesure où il ne s'en sent plus la force.
Après ça, est-ce qu'un pape pourra rester jusqu'à sa mort au gouvernement de l'Église ?
Bien sûr. On a dit que ça ouvrait la porte à une... C'est vrai quand même qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, avec les progrès de la science, on est dans une époque où on vit de plus en plus longtemps, surtout si on est un peu protégé. Et donc c'est vrai que les papes étaient papes jusqu'à leur mort, mais on vivait peut-être moins longtemps à une certaine époque. Aujourd'hui, 86, 87 ans, 88 ans, bah,
c'est jeune.
Oui, c'est jeune. C'est pas jeune, c'est quand même une grosse responsabilité pour un homme de cet âge-là, donc on peut comprendre que ça ouvre une porte. Maintenant, le pape peut très bien aller jusqu'au bout quand même.
Pourquoi le pape ne démissionne pas comme les évêques à 75 ans ?
Et parce que il reçoit sa charge directement du Christ. Nous ne le recevons du Christ, mais à travers le pape, qui nomme les évêques. Lui, il n'est pas nommé, il est élu, mais dans un contexte où l'on sait que c'est l'Esprit-Saint qui choisit à travers l'élection des cardinaux. Donc, il n'a pas une personne référente à qui il peut remettre sa charge, sauf le Christ. Donc, on ne parle pas de démission pour en parler, mais de renonciation à sa charge.
Dans votre message que vous avez publié sur le site diocésain à l'occasion du décès de Benoît XVI, vous dites qu'on lira encore ses écrits comme saint Augustin, par exemple, dans 400 ans.
Oui, c'est vrai qu'il a une manière d'homélie, de commentaire de l'écriture sainte, dont il est très féru, parce que je pense que sa théologie est d'abord une théologie biblique. Il commente comme les pères de l'Église, d'un catéchète, comme on disait autrefois. Et je suis persuadé, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, qu'on lira Benoît XVI dans deux siècles, trois siècles, quatre siècles, comme on lit encore Saint-Augustin. Karl Schönborn, qui a été un de ses élèves et qui a travaillé avec lui au catéchisme des catholiques, qui est aussi un bon théologien, dit que c'est certainement un des plus grands théologiens de notre siècle, avec Hans Urs von Balthasar, avec lequel il a beaucoup travaillé, d'ailleurs à la revue Communion en particulier. Et il dit qu'il met les œuvres de Benoît XVI dans sa bibliothèque à côté de celles de Saint-Augustin.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, Monseigneur, pour la suite de cette émission.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Monseigneur Ayet, nous reprenons avec vous cette émission où nous allons parler de votre message de Noël, puisque c'est encore d'actualité en ce mois de janvier. Votre message qui commence assez fort avec toutes ces crises qui secouent le monde, l'Église, la France. C'est vrai que heureusement qu'on lit la suite après.
Oui, c'est vrai, ça pourrait paraître un peu noir et pessimiste. Non, je surfe sur le mystère de Noël, un nom tel que les prophètes l'ont annoncé, en particulier Isaïe, comme on le proclame dans la nuit de Noël, qui exprime ce paradoxe entre les ténèbres et la lumière, hein, qui est d'ailleurs un des thèmes privilégiés de Saint Jean. En particulier dans son prologue, on voit bien qu'il est sans arrêt dans ce paradoxe entre les ténèbres et la lumière. La lumière a lui dans les ténèbres, ou a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, les ténèbres ne l'ont pas saisi. C'est sûr que je pense à cette parole évidemment d'Isaïe qui introduit mon message, qui est « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Et je pense bien que même si cette lumière s'est vraiment levée, dans la nuit de Noël il y a 2000 ans, eh bien, le monde marche toujours plus loin dans les ténèbres. Tant que nous ne serons pas dans le royaume des cieux, et tant que le soleil ne brillera pas définitivement, comme le dit le livre de l'Apocalypse, nous sommes toujours dans la fragilité du monde, dans la précarité du monde, et nous sommes toujours dans le péché, dans le monde du péché, comme dit saint Jean. Hein. Quand il parle du monde, c'est le monde qui est sous l'emprise du prince de ce monde, et on sait qui est cet ange dit de lumière, mais qui est en fait l'ange des ténèbres.
Voilà. On l'est spécialement aujourd'hui, plus qu'avant
ou... Non, avant c'est avant, c'est aujourd'hui qui nous intéresse, c'est notre temps. Et personne ne peut nier que malgré tous les progrès scientifiques et techniques, et d'ailleurs on peut même dire que dans les 50, 60, 70 dernières années, il y a un contraste entre les 30 glorieuses qui ont marqué l'après-guerre dans notre société dite occidentale, parce que on est en Occident aussi, hein, et que les 30 glorieuses sont loin derrière nous aujourd'hui. Et on voit bien que ces progrès n'enrayent pas un certain nombre de crises qui s'abattent sur l'humanité d'aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'inquiétude autour de nous à travers les différentes crises à répétition qui se succèdent dans notre société d'aujourd'hui.
Alors la crise écologique déjà, c'est un sujet que les évêques de France ont pris en compte depuis maintenant un an et demi, je crois.
Oui, c'est sûr qu'il y a des déséquilibres qui ne sont pas forcément dus seulement à l'homme, comme on le sait maintenant, je pense, de plus en plus, mais qui sont dus aussi à des cycles. Mais c'est vrai que l'homme rajoute sa patte et que ce monde qui est régi par la technoscience finit par parfois détruire l'environnement, et pas seulement l'environnement, parce que l'Église n'attire pas l'attention seulement sur la protection de l'environnement, mais de la création, comme on sait. Et au sommet de la création, il y a l'homme. Donc l'Église est toujours intéressée non seulement par l'environnement, mais l'écologie humaine, comme disait Benoît XVI, et l'écologie intégrale, comme dirait aujourd'hui le pape François dans son encyclique Laudato Si. Donc c'est vrai qu'il y a, un effet boomerang qui nous revient en pleine figure de cette maîtrise et parfois de cette violence de l'homme par la technoscience sur le monde créé dans lequel nous avons été placés par Dieu au commencement.
Ensuite, il y a cette guerre en Ukraine, mais pas seulement en Ukraine. Il y a aussi des guerres dont on parle beaucoup moins.
Voilà, il y a la guerre en Ukraine avec tous les tenants et les aboutissants, l'invasion des Russes, donc une guerre d'agression, comme on dit. En même temps, il y a une espèce de surenchère de l'autre côté, pas tant de l'Ukraine, mais bien que c'est plutôt les États-Unis et l'OTAN. On se dit que toute l'attention du monde est portée sur la guerre en Ukraine, et c'est normal, parce qu'on pense évidemment toujours aux familles qui sont obligées de quitter leur pays, aux victimes civiles qu'il y a toujours dans tout affrontement de ce type, qui nous fait oublier aussi d'autres conflits, hein, qui ne sont pas moins meurtriers. Je pense au Yémen, avec l'Arabie saoudite qui fait ingérence de manière extrêmement violente sur les populations dans ce pays, alors qu'il reste l'allié des pays occidentaux, y compris de la France. Donc on se dit il y a quand même deux poids, deux mesures. Il y a l'Arménie où l'Azerbaïdjan musulman est en train de réduire et d'asphyxier complètement le Haut-Karabagh de l'Arménie, sans que nous disions grand-chose, alors qu'on passe des contrats pour le gaz avec l'Azerbaïdjan. Donc c'est là où on se rend compte, si vous voulez, que dans toutes ces guerres, il y a la guerre militaire, sans doute, et qui est désastreuse et destructrice. Mais il y a la guerre économique qui est derrière. Et on a l'impression que cette guerre en Ukraine s'éternise parce que les États-Unis ont parfaitement conscience que l'Ukraine résiste militairement, la Russie résiste économiquement. Et quand on entend encore résonner la parole de notre ministre de l'économie, qui évidemment ne détient pas vraiment les clés de la solution, qui nous dit on va mener une guerre totale économique contre la Russie, oui, mais la Russie s'en grandit économiquement. Et c'est très embêtant parce que ça détruit un peu l'hégémonie américaine, le plan mondialiste des États-Unis, avec la complicité de l'Europe qui finalement est un peu vassale des États-Unis. Et les États-Unis ont tout intérêt à ce que la guerre s'éternise. Presque, on n'a pas beaucoup d'intérêt pour les populations civiles qui sont massacrées pendant ce temps-là, vous voyez.
Il y a aussi la pauvreté qui augmente partout, et notamment en France, qui est quand même un pays dit riche.
Oui.
Donc ça pose question quand même, ce fossé qui se creuse entre les nantis et puis ceux qui ont...
Et ça, c'est ce qui est très inquiétant, que le Secours catholique, son rapport annuel a bien pointé. La précarisation en France grandit.
Les gens qui travaillent n'arrivent pas à vivre.
Non, ils ne vivent pas leur travail. Et donc on se rend compte en effet qu'il y a un fossé qui grandit entre les riches et les pauvres, car dans la situation actuelle, je ne suis pas sûr que les riches soient très impactés par la crise économique et sociale que nous connaissons. Et donc ce sont des injustices. On a l'impression que là, il y a un monde qui n'est pas tout à fait le monde réel, qui semble s'imposer, qui est le monde de la finance, des grandes entreprises multinationales, qui continuent de creuser ce fossé. C'est vrai entre les pays du Nord et les pays du Sud, bien évidemment, mais au sein de notre société française, on sent bien que la précarisation grandit avec tout ce qui s'ensuit, l'insécurité, la délinquance, et donc ça crée un climat extrêmement anxiogène, et on a l'impression que nos gouvernements ne sont plus capables d'enrayer ce processus.
C'est un peu délicat de poser cette question à un évêque qui prendra sa retraite à 75 ans, mais qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites, ou plutôt, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour faire cette réforme des retraites ?
Alors moi, je ne suis pas suffisamment compétent et je n'ai pas suffisamment étudié la question, mais je me demande en effet si, dans une société où déjà les seniors ne parviennent pas à travailler jusqu'au bout, d'augmenter le temps du travail va vraiment les aider à trouver du travail. Et pour les jeunes, je ne suis pas sûr que ceux qui vont devoir cotiser beaucoup plus longtemps seront mieux servis pour autant. Moi, ce que je crois aussi, ce qu'on ne dit pas beaucoup dans le débat, que j'entends par exemple de la part d'associations comme les AFC, les associations familiales catholiques en particulier, ou Alliance Vita, c'est que tant qu'on n'aura pas une politique familiale qui permettra d'avoir une vraie politique nataliste, dans nos pays qui vieillissent terriblement, eh bien, on ne résoudra pas le problème des retraites. Parce que qui est-ce qui cotise pour les retraites? Des vieux, comme on dit, ce sont les jeunes. Mais s'il y a moins de jeunes qui rentrent sur le champ du travail, peut-être ça permettra à des seniors de travailler un peu plus longtemps, et encore pas tous, mais ça ne résoudra pas, certainement pas, le problème des retraites.
Pour parfaire ce tableau assez noir, mais après on va parler d'espérance quand même, il y a bien sûr la crise de l'Église, qui est quand même une des crises les plus graves qu'elle ait pu vivre, qui existe maintenant depuis quelques années, avec donc la crise des abus sexuels et puis toutes les conséquences que ça peut avoir.
Oui, et la sécularisation. Oui.
Voilà, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a certainement la crise des abus, hein, qui blesse profondément l'Église dans sa crédibilité, hein, mais très étonnamment, et c'est là où on voit que nous ne maîtrisons rien nous-mêmes, alors que les abus et les scandales éclatent à répétition et que sans doute les médias mettent le focus dessus, hein, et donc ça finit par identifier l'Église aux abus, ce qui n'est d'ailleurs pas très juste. Et quand on voit un peu de recul, on voit bien que l'Église ne se réduit pas aux abus sexuels, même si les quelques abus suffiraient à ternir son visage. Mais en même temps, très curieusement, et tous les évêques sont d'accord, on avait une réunion d'évêques de la province récemment, on n'a jamais eu autant de catéchumènes adultes qui viennent frapper à la porte de l'Église. Et on n'a jamais eu autant de recommençants qui, tout en étant baptisés, n'ayant pas suivi leur initiation chrétienne, désirent être confirmés à l'âge adulte et reprendre une vie chrétienne authentique. Donc ça veut dire que ces scandales qui occupent quand même l'espace médiatique et donc qui finissent par identifier l'Église à ses abus, qui méritent en effet que l'Église s'y attelle vraiment, hein, c'est évident, parce qu'on pense surtout aux victimes, mais aussi à l'amendement des coupables, mais aussi à l'éradication des scandales, eh bien, l'Église continue d'être le sacrement du Christ, le sacrement du salut pour beaucoup d'hommes et de femmes, et de jeunes de notre humanité d'aujourd'hui. La deuxième raison de crise dans l'Église, c'est aussi le relativisme, la sécularisation, qui atteint l'Église, hein, d'une certaine manière. C'est la crise de la foi. Saint Jean-Paul II parlait d'apostasie tranquille. On vit comme si Dieu n'existait pas. Et c'est vrai que dans l'Église, il y a un climat aussi de confusion sur le plan des mœurs, sur le plan de la foi, qui n'aide pas non plus à ce que le message soit clair et clairement transmis à l'humanité d'aujourd'hui.
Les nouveaux catéchumènes sont une source d'espérance pour l'Église. Y en a-t-il d'autres, Monseigneur ?
Beaucoup d'autres, mais je crois qu'il faut en effet prendre un peu de hauteur par rapport à ce que j'ai pu dire dans l'émission précédente sur les ténèbres qui s'épaississent pour beaucoup de nos contemporains et de nos concitoyens dans le monde d'aujourd'hui. C'est que l'Église reste quand même témoin d'un message d'espérance. Et c'est ça qui est le plus important. J'y ai beaucoup réfléchi et en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui à l'occasion de l'Épiphanie. Et du message que nous donnent les mages précisément venus d'Orient. Hein. C'était des hommes qui étaient aussi aux prises avec un monde chaotique, un monde profondément injuste, et ils avaient ce souci d'un rétablissement de l'ordre juste dans le monde qui était plongé dans les ténèbres, comme le monde d'aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, même s'ils connaissaient le pays d'Israël. Et ils savaient qu'ils avaient un Dieu. Ils ne scrutaient pas les Écritures, mais ils scrutaient les étoiles. C'était des savants, hein, des astronomes. Et ils ont vu se lever une étoile qu'ils ont interprétée comme étant le signe qu'un roi des Juifs venait de naître. Et donc ils se sont dit, sans doute, comme dit souvent Benoît XVI quand il commentait beaucoup cet évangile de l'Épiphanie, ils se sont dit, ce roi des Juifs peut-être a quelque chose à nous dire sur un Dieu qui existe, et comment prend-il soin des hommes ? Et puis ils ont fait tout un cheminement intérieur qui est passé d'ailleurs par la parole de Dieu, comme quoi il n'y a pas de possibilité d'arriver au Christ et à la foi sans passer par la parole de Dieu. Ils sont obligés de s'arrêter à Jérusalem parce que l'étoile s'était éclipsée.
Et repartir par un autre chemin.
Et alors, après avoir rencontré le Christ. Mais d'abord, ils sont arrivés jusqu'à cette grotte, à cette crèche, à cet enfant impuissant, mailloté, couché dans une mangeoire. Et ils se sont prosternés. Fallait-il qu'il y ait tout un chemin intérieur que la grâce leur permettait de faire pour qu'ils reconnaissent dans cet enfant le roi et le Dieu qui détenait entre ses mains le salut du monde. Et ça les a obligés à retourner un autre chemin. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de métanoïa, une espèce de changement de mentalité où ils
c'est
ont compris que...
C'est la conversion, finalement.
C'est la conversion. Mais ils ont compris que la solution du salut du monde, ce n'était pas un programme économique. Ce n'était pas une armée qu'on allait lever pour rétablir l'ordre. C'était l'amour, le don de soi poussé jusqu'au bout, dont le Christ sera évidemment l'artisan et l'instrument, à travers sa passion, d'où la myrrhe, mystérieusement, qui est offerte en vue de sa passion, hein, à cet enfant nouveau-né. Et eux-mêmes, de se dire, dans la mesure où nous convertissons notre cœur à l'amour, eh bien, nous devenons utiles à nos contemporains. Voyez, et on voit à travers toute l'histoire de l'Église, toutes les crises, je pense au paupérisme ou à la paupérisation du XVIIe siècle français, eh bien, un saint Vincent de Paul qui a été converti dans son cœur, alors qu'il était au départ pas si bien parti, eh bien, a suscité, par l'inspiration de l'Esprit-Saint, des œuvres colossales qui ont permis d'enrayer la paupérisation du XVIIe siècle. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que notre espérance, le Christ en est l'instrument, parce qu'il il est capable de convertir notre cœur à l'amour don de soi, qui sera beaucoup plus utile à nos contemporains que les forces armées et que les programmes économiques et politiques qu'on nous propose.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, Monseigneur Hayet, pour la suite de cette émission consacrée à la vie diocésaine.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Monseigneur Hayet, nous terminons cette émission avec vous. Nous allons parler de vie diocésaine et premièrement ce grand chantier qui a été lancé par le pape François, le synode sur la synodalité. Alors un terme qui peut paraître un peu complexe pour certains. Où est-ce qu'on en est? On a eu une phase diocésaine. Maintenant, nous, on n'a plus rien à faire ou on a encore du travail?
Alors, je dois dire qu'on est un peu dans le flou. La démarche diocésaine et le temps diocésain a été achevé, comme vous le savez, au mois de juin, juillet, août. Nous avons, les évêques de France, fait une collecte de toutes les synthèses diocésaines que nous avons envoyées, non sans une lettre d'accompagnement qui permettait d'interpréter quand même le fait que 10% seulement des catholiques ont participé au synode, ce qui est quand même intéressant à noter. Donc il manquait pas mal de gens à l'appel, donc ça ne rend pas très exhaustif sur la situation de l'Église et sur le peuple chrétien en France en particulier, mais dans nos autres pays qui ont sacrifié à cette étape diocésaine. Aujourd'hui, c'est l'étape continentale. J'avoue ne pas savoir très bien ce que ça veut dire pour nous. C'est-à-dire que ce sont plutôt les épiscopats, normalement, qui doivent travailler par continent. Mais pour l'instant, nous n'avons reçu, nous, aucune directive particulière. Je parle, moi, de l'évêque de base. Hein. Peut-être que la présidence des évêques de France, mais on n'a pas beaucoup de retours, en tout cas, est très attelée à cette démarche continentale qui devrait avoir lieu jusqu'en avril-mai, je crois, 2023. Et après, il y aura le synode des évêques que le pape a convoqué, même s'il l'a fait précéder par cette consultation du peuple de Dieu à travers ces deux phases diocésaines et continentales, qui aura lieu en octobre 2023, prolongée par une deuxième assemblée synodale en 2024. Donc je ne sais pas très bien où nous allons. Je pense que l'intuition du Saint-Père, c'est dans la grande tradition de l'Église, de montrer que la participation à la mission de l'Église est l'affaire de tous dans l'Église, pas seulement des évêques, qui ont reçu une mission tout à fait particulière quand même vis-à-vis de l'Église, dont ils sont les bergers, configurés au Christ tête, qui conduit son Église à travers eux, mais aussi à travers tous les baptisés au nom du Sensus Fidei, qui est ce sens surnaturel de la foi que chacun a reçu par le baptême et qui est appelé à s'approfondir au contact de la parole de Dieu, lue en Église, donc sous la conduite du magistère, pour dire ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. J'ai souvent, pour comprendre un peu cette démarche synodale, dit que quand la Vierge apparaît à Bernadette Soubirous et qu'elle lui dit « va !» trouver les prêtres et dis-leur qu'il faut construire ici une chapelle pour qu'on y vienne en procession, eh bien, tout baptisé a quelque chose à dire à la hiérarchie de l'Église pour que l'Église assume mieux sa mission d'annoncer l'Évangile au monde. C'est ça la grande idée force, je pense, que le pape François veut vraiment mettre en œuvre à travers cette assemblée synodale, mais il faut laisser faire confiance à l'Esprit Saint à travers les ratés peut-être aussi de nos participations humaines.
Alors justement, le pape François, hier, le dimanche 15 janvier, a annoncé lors de l'Angélus qu'il y aurait une veillée de prière œcuménique à la veille donc, du synode des évêques. Et nous entrons dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier. Déjà, c'est difficile de faire l'unité entre catholiques, alors entre les chrétiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette semaine
d'unité? C'est toujours pareil, on est confronté sans cesse, et ce sera vrai jusqu'à la fin du monde, à nos ferments de division au sein de nos familles, de nos communautés, de l'Église catholique, avec les autres chrétiens, qui, comme nous, communient à la même foi au Christ, Fils de Dieu Sauveur, et qui nous rappelle que l'Église est une par définition, parce que le don de l'unité est un don que le Christ a fait à son Église à travers son mystère pascal de mort et de résurrection, mais qu'elle reste pour nous une tâche à accomplir. Vous avez bien compris que nous ne prions pas pour l'unité de l'Église, qui est une, mais nous prions pour l'unité des chrétiens, donc des membres de l'Église qui, à cause du péché, à cause de leurs incohérences, à cause de leur manque de cohérence entre leur foi et la parole de Dieu, sont sujets aux divisions.
Alors, mais dès le départ, il y avait ces divisions dans les premières communautés chrétiennes.
Bien sûr, et même entre les apôtres autour de Jésus. Ils se chamaillaient entre eux pour savoir qui serait le plus grand et qui aurait la première place lorsque Jésus reviendrait dans son royaume, qu'ils avaient peut-être aussi idéalisé de manière un peu trop temporelle. Voyez. Donc ce n'est pas étonnant parce que l'homme est pécheur. Si l'Église était sans péché, ça se saurait. Elle est sans péché, mais elle n'est pas sans pécheur. Voilà. Mais elle a le pouvoir de nous sanctifier. Elle a le pouvoir de nous faire entrer dans la communion par la grâce du Christ dont elle est dépositaire. Donc, c'est ça que nous faisons. Tous les chrétiens qui croient au Christ, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, qui se sont divisés au cours des siècles, se rassemblent dans la foi commune et prie le Seigneur ou demande à Jésus d'accomplir sa prière au milieu de nous, qui est « Père, qu'il soit un, comme tous nous sommes un ». Voilà. Donc le message, c'est que nous avons, à l'occasion de cette prière, la puissance de la prière, parce que nous croyons vraiment que c'est Dieu qui fait l'unité, donc nous lui demandons de nous tenir unis, nous essayons tous, avec les éléments de vérité et de sanctification que nous détenons, nous, l'Église catholique, en plénitude, nous demandons de nous convertir toujours plus à ces éléments que nous avons à notre disposition pour être des saints.
Dans les événements diocésains à venir, il y a des signes d'espérance, puisque nous avons une ordination diaconale à Bétaram le 22 janvier, et puis des admissions au sacerdoce et au lectorat, donc des étapes vers la prêtrise. Ce sera le 5 février. Alors, juste un mot sur l'ordination diaconale, c'est pour un diacre en vue du sacerdoce,
c'est ça ? Oui, un diacre en vue du sacerdoce de la communauté de Bétaram. Les religieux de Bétaram, vous savez combien ils sont très liés au diocèse de Bayonne, l'Escarrieux, le Rond, puisque le fondateur des Pères de Bétaram, qui s'appelle la Société des Pères du Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Michel Garicoïts, est un Basque, Saint-Justibard, et qui a fondé les Pères de Bétaram au Béarn, à Bétaram, au sanctuaire de Bétaram, dont il était le recteur. Et donc il y a toujours un lien très fort entre cette communauté qui pourtant est une congrégation religieuse de droit pontifical, mais dont le berceau est comme à Bétaram. Donc ce qui fait que si aujourd'hui cette communauté a des vocations, pas en France, ni en Espagne, ni en Italie, mais en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, un peu en Argentine, mais aujourd'hui en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, parce que c'est une communauté qui a une certaine universalité, déjà du temps de Saint-Michel Garikoetz, eh bien, ils viennent toujours à Bétharam faire une année de préparation au noviciat, à la profession solennelle, puis à l'ordination. Et donc, il est de tradition que les jeunes bétharamites, quelle que soit leur nationalité, soient ordonnés diacres par l'évêque de Bayonne. Donc je vais avoir la grâce et la joie d'ordonner à Bétharam le frère Fulgence, qui est donc un jeune ivoirien.
Et donc les admissions au sacerdoce et au lectorat, ce sera surtout des jeunes de la communauté du chemin
néocatéchuménal. Donc vous savez qu'on a deux séminaires diocésains, même si nous traversons parfois des temps de vaches maigres, ben, il reste toujours des jeunes qui sont sans doute qui viennent de très loin, qui viennent ni du Pays Basque, ni du Béarn, ni de la Gascogne, mais qui sont pour le diocèse de Bayonne. Je vais admettre comme candidat au sacerdoce trois jeunes du séminaire Redemptoris Mater, donc je rappelle que c'est un séminaire diocésain, mais qui sont effectivement de nationalités diverses, puisqu'il y a Abel, qui est de l'Équateur, Emmanuel, qui est de Saint-Domingue, et Jérôme, qui est de Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, je vais instituer lecteur Miguel Angel, qui lui est vénézuélien.
Et ce sera seront donc prêtres pour notre diocèse.
Voilà, si Dieu veut qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc le dimanche 5 février, à l'église Saint-Joseph de Blanc-Pignon à Anglette.
Le 2 février, ce sera la journée de la vie consacrée, une journée instituée par Saint-Jean-Paul II. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans le diocèse ?
Normalement, le 2 février, c'est l'occasion d'un rassemblement des consacrés qui peuvent encore se déplacer pour fêter, entourer ceux qui ont consacré toute leur vie au service du Seigneur pour son peuple, que ce soit dans la vie contemplative ou que ce soit dans la vie active. C'est le moyen, en tout cas, quelles que soient les modalités d'organisation de cette journée, de souligner l'importance de la vie consacrée au sein de l'Église. Ce don total, cette consécration totale de soi-même au Seigneur pour le service de l'Église et anticiper d'une certaine manière, à travers les trois vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté parfaite, eh bien le royaume des cieux pour lequel nous sommes tous faits. Ils sont là pour nous rappeler à tous, prêtres et laïcs, clercs et laïcs, que nous sommes appelés par le baptême à devenir des saints.
Un dernier mot, Monseigneur Hayet, concernant la vie diocésaine, c'est ce nouveau site internet qui est enfin sorti pour notre diocèse, www.diocèse64.org. Quelle est la nouveauté par rapport au site précédent ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce site ?
Il devrait permettre d'accéder plus facilement aux différents services et aux différentes activités du diocèse, donc à travers une actualité qui est suffisamment réactive, et puis à travers des pages qu'on atteindra avec un maximum de deux clics pour rejoindre ce qui se passe dans la catéchèse, le catéchuménat, la vie diocésaine de manière générale. Donc je pense que ça doit être, c'est un beau projet, mais je constate qu'il est encore en gestation et que même si on a déjà accès à ce nouveau site, on voit bien que la finalisation n'est pas terminée.
Voilà, mais on peut déjà le consulter, donc www.diocèse64.org. Merci beaucoup, Monseigneur Hayet. Merci à tous les auditeurs de Radio Lapourdi et de Radio Présence. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast, justement sur le site du diocèse. Vous pourrez bientôt la réécouter ou sur les sites de Radio Présence et de Radio Lapourdi. À très bientôt.
Merci beaucoup.
À très bientôt, merci.